Bonjour à tous, bienvenue au Photo Photo Podcast. Aujourd'hui, on présente la deuxième partie de l'épisode sur les drains avec Pierre-Luc Rivet. Bonne écoute! J'aimerais maintenant qu'on parle un peu de la Craie à Montréal. C'est un endroit qui est quand même assez bien connu du moment qu'on a déjà passé sur le boulevard Notre-Dame, dans le coin des anciennes usines de Molson, puis en dessous du pont Jacques-Cartier. Il y a cette espèce d'ancien bâtiment qui était là avec une très grosse cheminée. Mm-hmm. Vous avez décidé de développer un projet, parce que c'est ça que j'aime de ta démarche avec Daniel, avec d'autres personnes qui se sont greffées aussi au projet. Vous avez développé un amour tellement fort par rapport à ces installations-là que vous avez décidé de travailler pour en faire un musée. J'aimerais que tu me parles un peu de ça. D'où est-ce que ça est parti? Est-ce que c'est un projet qui existe déjà ailleurs dans le monde? Y a-t-il des musées des égouts ailleurs? Puis qu'est-ce qui fait qu'à Montréal, on a un truc suffisamment pertinent puis intéressant pour en faire une installation permanente?
Bon, oui. En fait, en Europe, il y a plusieurs musées des égouts. C'est okay. Pas quelque chose qu'on est sorti. On n'a pas innové avec cette idée-là, en fait. Dans le fond, si je peux commencer par le commencement, là, comment que ça, avant même de parler des musées des égouts à l'international, tout ça, quand j'ai commencé à visiter la Craie de façon plus régulière, c'est arrivé pour un peu grâce à la communauté internationale. Je t'explique. Plusieurs fois par année, on va avoir un email de quelqu'un qui vient d'Australie ou d'Europe ou des États-Unis qui nous dit « Hey, je viens passer 3-4 jours à Montréal. As-tu quelque chose à me montrer? » Évidemment, on a les classiques. On va aller les amener à Malting parce que c'est à côté de chez Daniel, parce qu'on connaît la place, etc. Mais il y a aussi la Craie qui était facile d'accès. Fait que pour tous tes amis qui font partie de la communauté internationale de Drainer, si tu viens à Montréal, c'est un crime de ne pas passer par la Craie.
Ouais.
Fait que c'est devenu quelque chose qui a commencé de façon un peu sporadique et devenu une genre de tradition ou d'un rite de passage. Vous venez me voir, je vous fais des crêpes et on va à Craie. C'est ça. On mange des crêpes parce que moi, j'aime bien faire des crêpes. Fait que tout le monde me connaisse. Quand je voyage à l'étranger, je fais des crêpes pour tout le monde. Je traîne mon sirop d'érable partout où je vais. C'est ça. Le déroulement typique d'une soirée, l'invité arrive chez moi. On fait des crêpes, flatte les chats, prend les waders, puis on marche jusqu'à la Craie. Puis, à un moment donné, après 15 visites de même, là, tu commences à parachever un narratif. Tu t'expliques aux gens. Ça fonctionnait de même. Je pense que ça, c'était pour ça. À un moment donné, la prochaine fois que tu amènes quelqu'un, tu dis, je veux vraiment avoir la réponse, je vais aller faire des recherches historiques. Là, commence à aller aux archives. Commence à chercher en ligne. Trouve des plans. Trouve des ci, trouve des ça. Des études patrimoniales sur le bâtiment. Viens qu'à tout amalgamer ça dans ma tête, puis mon esprit d'ingénieur finit par comprendre comment que la place fonctionne. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'entends, ah, Pierre-Luc, t'es un expert des égouts puis de la Craie, je me sens imposteur parce que je veux pas prétendre que je connais tout puis que je suis un spécialiste des égouts, mais c'est comme ça que le monde me voit dans ce milieu-là. Mais écoute, je suis ingénieur avant tout, explorateur après, puis amateur par-dessus tout. Donc, j'aime pas ça me faire appeler expert de la Craie et tout ça, mais je veux pas, avec toutes les recherches historiques, l'étude des cartes, des plans, oui, je suis venu qu'à développer un savoir spécifique de cet endroit-là.
T'es quand même venu à devenir quand même une référence de cet endroit-là.
Ouais.
Avec Daniel, vous êtes probablement les deux personnes à Montréal qui connaissaient mieux l'endroit, qui connaissaient mieux l'utilité qu'avait cet endroit-là.
Tout à fait. Donc, de où ça a parti? C'est d'amener des gens, faire des visites. Fait que c'est un peu comme des visites guidées déjà qu'on faisait. Mais on ne savait pas à l'époque. Mais à un moment donné, c'est ça, tu parachèves ton narratif. Là, je me rends compte, je dis tout le temps la même chose aux invités. Je dis tout le temps, ah, ça servait à ça, ça servait à ça. Mais à un moment donné, tu te rends compte, il y a un potentiel d'interprétation avec ce lieu-là.
Ouais.
Là, au début, c'est pas un projet sérieux. Tu sais, tu fais la joke de, hey, ça ferait-tu un beau musée des égouts? Parce que là, on parle de musée des égouts.
Ouais.
C'est temps d'en parler. Il y a beaucoup d'endroits en Europe où est-ce qu'ils vont actuellement, en fait, chanter les louanges des égouts. Hein? Venez voir nos égouts. Fait qu'à Paris, t'as un musée des égouts. À Bruxelles, t'as un musée des égouts. À Vienne, t'as un musée des égouts.
Tu descends dans les égouts?
Oui, littéralement. Okay. Ben, tu marches pas dans l'eau.
Non.
Mais mettons, à Paris, c'est toutes des galeries sèches, mais tu vois des collecteurs, tu vois des bassins de rétention, t'es dans l'infrastructure.
T'es dans des anciennes installations qui servent plus.
Qui servent encore.
Qui servent mais encore.
Mais tu vas pas te mettre les pieds dans l'eau, c'est sûr.
Oh, ouais.
C'est sûr que c'est ouvert au grand public, donc c'est sécuritaire, mais ça sent les égouts.
Okay.
Tu peux pas ne pas sentir les égouts dans
une ville. Ça fait partie de l'expérience.
Exactement. Fait qu'à Bruxelles, c'est la même chose. À Vienne, y a un film que avec Orson Welles, en 1947, qui s'appelle Le Troisième Homme, de Drittemann, tourné en noir et blanc. Puis la scène finale, c'est une poursuite incroyable dans les égouts de Vienne.
OK.
Fait qu'ils ont tourné ça dans les égouts. Puis ils ont fait beaucoup aussi des reproductions de cet égout-là en studio parce que Orson Welles avait peur de loups ou avait peur des rats ou quelque chose. Fait qu'ils ont été obligés de refaire des reproductions d'égouts tel qu'il est en studio. Mais cet égout-là, tu peux le visiter. Donc, moi, quand j'étais en voyage de noces en 2013, en 2017, j'ai pris ma chambre d'hôtel le plus proche possible de la Vienne Fluss, qui est la rivière qui passe au milieu de Vienne puis qui devient canalisée sous terre.
Attends, je t'arrête. Pendant ta nuit de noces...
Voyage de noces. Pas nuit de noces, quand même.
Non, pas nuit de noces, mais ton voyage de noces, t'es allé faire des égouts.
Ouais. Avec ma femme.
Avec ta femme.
Ben oui.
OK, parce qu'elle partage un peu la même passion que toi.
Plus ou moins. Pas autant des égouts, mais elle va m'accompagner.
Elle comprend.
Elle sait d'où ce que je viens.
Pour elle, c'est pas une maladie.
Non.
C'est un hobby.
À Vienne, ce qui est le fun, bon, Vienne, tu vas voir aussi, je vais te partager une photo.
Oui.
C'est 20 mètres de large par 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. C'est une rivière là, qui passe là.
Okay.
Puis t'as, encore une fois, les bords sont relevés, fait que ça fait comme des trottoirs. Fait que d'ailleurs, la première photo que j'ai prise dans cet égout-là, il y avait un dude américain qui dormait dans son sleeping bag dans cet égout-là. Ben, je veux pas dire que c'est pas un égout, mais dans ce tunnel-là.
OK.
Puis, un kilomètre plus loin, j'ai rencontré deux dudes en bicyclette qui se promenaient en bicyclette. Parce que ça débouche dans le Stadtpark, le parc municipal, là, le gros parc de la ville. Puis, t'as des escaliers qui descendent, puis c'est pas fermé.
Ça reste accessible.
C'est accessible, mais le monde ne va pas nécessairement là.
OK.
Mais le musée, c'est un ancien, je cherche le nom, excuse-moi, je l'ai juste en anglais, un CSO, un ouvrage de surverse. Donc, l'égout sanitaire, s'il se remplit trop, il va se déverser dans cette pièce-là qui s'écoule dans la rivière, en fait. Puis, dans le film de Troisième Homme, il n'y a pas de grille, tu peux passer entre une pièce puis l'autre. Là, vu que c'est un musée, ils ont fermé les ouvertures avec des portes cadenassées. Fait que, moi, je suis allé voir avec mon épouse, on se promène, on a tout fait le tunnel au complet, on a fait une coupe de side tunnel, pris des photos. Puis là, il y a des étoiles hollywoodiennes, Drittemann, sur le sol, en face de ces grilles-là qui mènent au musée.
Des comédiens.
Ouais, de Orson Welles, puis tout ça, okay. C'est vraiment fou. Et puis... On rencontre les deux gars en bicycle, mais en ressortant, il y a deux jeunes avec des caméras et des trépieds. On dit « Ah, fais-tu de l'explo? Ah oui, nanana. Ah cool, c'est quoi votre Instagram? » On échange nos Instagram. Deux jeunes de 17 ans, mais super fins.
OK.
Fait que là, je leur dis « Hey, le musée, là, vous savez-tu? » « Ah non, je savais pas que ça existait. » Je dis « Je sais comment rentrer, ça vous tente-tu? » Oui. Parce que moi, je veux pas avec les contacts à l'international. Les Australiens l'avaient fait avant nous, là, plusieurs années. Ils disent « la plaque ». C'est un trou d'homme avec un escalier en spirale. Fait que la plaque est hexagonale. C'est 6 pointes de pizza que tu peux lever. Il y en a une qui est jamais barrée. Fait que tu lèves la plaque.
Tu lèves la première, puis tu peux
glisses lever. Dans l'escalier. Tu sais.
OK.
Fait que, ouais. Première nuit à Vienne, à style let's go. Fait qu'on a fait le tunnel, après on a fait le musée.
OK.
Illégalement, mais moi je voulais le voir avec les animations, tout. Fait qu'on est revenu le lendemain, payé notre billet, fait la visite guidée. Puis en plein milieu de la visite, mon gars, orage éclair, tout se remplit, tout commence à déborder, les alarmes qui sonnent, les lumières, puis là, les guides nous ont sorti. Pas remboursable.
OK. Ben, ça fait partie de l'expérience.
Ouais, ben oui. Puis j'ai pas terminé la visite, mais je suis content de l'avoir faite illégalement. La veille, au moins, on a pu voir tous les recoins avant de s'en aller. Fait que c'était correct pour ça. Mais oui, il y a des musées des égouts, en fait, en Europe. Fait que c'est pas un concept nouveau de notre part. Et puis, c'est ça. Au début, on fait la farce pendant plusieurs années, Daniel puis moi, à chaque fois qu'on amène un invité international. Ah, une autre visite. Bienvenue dans notre musée des égouts, tu sais. Puis on rigole.
T'as quasiment des tickets. Bon, OK, t'es visiteur 823, là.
Ouais. Fait que, au moins, ce qui était le fun, c'est qu'on donnait une bonne visite avec une bonne explication. Tu sais, la personne qu'on amenait repartait avec une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'elle venait de visiter. Tu sais. Puis moi, j'avais du fun à donner des visites guidées comme ça, je veux pas. Fait que ça reste comme ça, je te dirais, jusqu'en 2019. La ville, elle annonce le plan particulier d'urbanisme des faubourgs pour le secteur Ville-Marie. Donc,
qui est l'ancien quartier d'Amelas.
Le village, là, ouais. Faubourg Amelas, village, gay, centre-sud.
Puis tu sais, c'est un secteur qui est présentement appelé à changer parce que Monsun a déménagé, qui occupe un grand espace. Maintenant, ça va devenir des condos. Ils en font un nouveau quartier. La station Greg, elle a été déconstruite.
Malheureusement, oui.
Malheureusement, parce que ça se
trouve. Ça, je vais te parler de l'historique plus tard, là, mais effectivement, oui.
Mais c'est un secteur qui est un peu en ébullition, à savoir, c'est un peu à la croisée des chemins.
C'est en effervescence, regarde.
Ils veulent faire plusieurs trucs, là.
C'est un secteur qui est rempli d'histoire.
Oui.
Plein de bâtiments patrimoniaux. T'sais, on parle de l'hôpital de la Miséricorde. On parle évidemment de la station Craig. La brasserie Molson, qui est d'ailleurs une des plus anciennes brasseries en Amérique du Nord.
La prison du pied du courant.
Colin, j'en oublie d'autres, mais tout ça est dans comme un kilomètre de rayon. Puis c'est éventuellement voué à venir à un pôle culturel ou muséal. Puis nous, avec la station Craig, on est comme un peu en plein centre. Donc, en 2019, là, je te parle, c'était avant la pandémie, hein, fait que tout est encore possible. La ville fait l'annonce de consultation publique. Donc, l'Office de consultation publique fait des consultations sur le PPU des Faubourgs. Donc, des séances d'information qui se tiennent à l'Écomusée du Fermonde. Fait que Daniel et moi, on disait, écoute, on va aller s'informer, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Puis, à travers tout ça, ils disent qu'ils vont chercher à redévelopper la station Craig en lui trouvant une nouvelle vocation. Fait que là, nous, en tant que protecteurs clandestins de ce bâtiment-là, on se dit comme, hey, faut qu'on regarde ça d'un œil là près. Tu sais. Puis là, on se dit, ben, coudonc, on pourrait peut-être leur proposer de faire un musée des égouts là-dedans. Tu sais. À l'époque, l'idée, c'était ça, faire un musée des égouts. Parce que c'était juste ça qu'on connaissait, nous autres, avec ce qui se fait à Paris, à Vienne, à Bruxelles, etc. Fait qu'on se dit, OK, ben, comment qu'on peut faire passer l'idée? Ben, on va rédiger un mémoire à l'OCPM. Fait que passe, je pense, on a 3-4 mois à faire la recherche historique, la rédaction du mémoire, rassembler des photos. Puis bref, on a produit un mémoire d'une 30-40 de pages à peu près, avec photos à l'appui, qui décrivent des grandes lignes d'un projet de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la Craig en tant que musée des égouts, avec des exemples de musées internationaux, des photos des conditions actuelles à l'intérieur du bâtiment puis dans l'égout. Essayer de teaser, parce que des photos parlent plus qu'un texte.
Hein. Oui, puis vous y êtes allé assez souvent pour en avoir des photos.
Ah oh, oui, après des années de documentation, puis d'exploration, puis d'interprétation du site clandestin, on avait une bonne idée de qu'est-ce qui pouvait être fait avec le bâtiment. Donc, on a un peu comme épaté la galerie avec nos photos à l'OCPM. On est allé présenter notre mémoire, fait qu'on a parlé au commissaire, puis on leur a expliqué qu'est-ce qu'ils voyaient sur des photos, c'était quoi le potentiel de la place. Mettre l'emphase sur c'est faisable, même si ici au Québec, on a peur d'avoir peur, juste d'avoir peur.
Right.
Hein? On est vraiment frileux sur silencieux sur des choses qui sont hors normes ou pas considérées comme on n'est pas habitué de faire ça, c'est pas comme ça que ça se fait. On n'est pas là pour changer les méthodes, hein? T'sais? Oh, ça fonctionne de même depuis des années. Ouais, mais t'as-tu questionné pourquoi ça fonctionne? Non, ça fonctionne de même.
OK. Right.
Mais en Europe, ils n'ont pas peur d'innover, puis c'est une fierté pour eux, les égouts. Ça leur a réglé plein de problèmes d'épidémie puis de choléra. Oui,
Londres était insalubre pendant un certain moment de son époque.
Fait qu'eux autres, c'était des ouvrages d'ingénierie incroyables pour l'époque. Là. Fait que c'était une fierté. Fait qu'ils ont tout fait des musées. Nous autres, on arrive ici, puis on enfouit notre histoire, puis on en a quasiment honte.
Ouais.
T'sais. Fait qu'à l'OCPM, on a vraiment montré des photos, dire qu'est-ce qu'on verrait, puis on leur a expliqué, regardez, ce bâtiment-là, son sous-sol est ouvert à l'égout, puis ça sent constamment la vieille cave humide puis le petit odeur de caca. Tu peux pas faire un Starbucks ou un centre de yoga là-dedans.
Non.
Il faut que ça. Tu veux quelque chose qui respecte la vocation d'origine du bâtiment. Me semble qu'il n'y a pas 100 000 solutions puis que la meilleure, ça serait un musée des égouts. Puis là, ben, de fil en aiguille, tu sais, on peaufine nos recherches. Puis un de nos amis nous dit ouais, pour faire un musée, ça prend une collection permanente collection à exposer, des conditions atmosphériques contrôlées. Fait que vous autres, vous serez peut-être plus aptes avec un centre d'interprétation. Fait qu'on a fait comme musée, centre d'interprétation, peu importe.
On veut juste faire la même chose.
Puis l'idée, c'était, à l'époque, quand le bâtiment était encore là, c'était d'aménager le rez-de-chaussée avec une exposition permanente. Donc, mettre des photos de l'égout, des photos des égouts, des photos de la station.
D'expliquer
l'historique des rivières souterraines, des rivières perdues, comment que ces rivières-là sont venues à devenir des égouts. Ensuite, parler des grandes inondations, parce que là, on va en parler. Là. Je sais que tantôt, je t'ai un peu coupé là-dessus. Pourquoi que la station Craig elle a été construite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le métier des égoutiers, l'évolution du 19e au 20e siècle, les différents matériaux, les enjeux climatiques. T'sais, on avait toute une liste de choses prédéterminées. On aurait des grandes lignes, des bullet points, si on veut, là, des points clés à OK, on a ces sujets-là qu'on pourrait élaborer, puis on aurait un merveilleux musée au rez-de-chaussée.
Ouais.
Avec le sous-sol en dessous, tous les équipements sont encore là, donc les pompes à vapeur.
Sur papier, vous aviez un très beau projet.
Oui, puis
si on est en 2000,
trois niveaux. On avait le rez-de-chaussée, un musée, la visite des pompes, puis on voulait amener le public dans les égouts. Ça, on s'inspirait beaucoup de ce que j'ai vu à Brescia. En fait, les amis à Daniel qui ont commencé à, un peu comme nous, clandestinement, à explorer les 7-8 rivières souterraines qu'il y a sous Brescia, puis qui convergent toutes au même endroit.
OK.
Intéressant. Puis de là, ils se sont fait comme pognés par la ville. Puis la ville, au lieu de leur taper ses doigts, ben peut-être qu'ils leur ont un peu tapé ses doigts, mais quand ils ont vu le travail de recherche qu'eux autres, ils ont même pas ça dans leurs archives, des plans à jour de leurs égouts, ils ont fait comme, OK, on va vous donner légitimité, puis ça a grossi de fil en aiguille. Maintenant, ils ont leur local, ils font des visites guidées, ils sont sponsés par des LED Lancers, des compagnies de waders, des casques, Petzold,
okay. Etc.
Puis ils emmènent le public dans des rivières souterraines de l'époque romaine, médiévale, puis fasciste. Fait que t'as des égouts en pierre, t'as des égouts en briques, puis t'as des égouts en béton de l'époque Mussolini. Fait que un gros amalgame. Des fois, t'es dans un tunnel en béton, puis à un moment donné, t'as un arche en briques. Là, c'est quoi ça? Ben, c'est un ancien pont. Un ancien pont en briques qui traversait la rivière. Maintenant, la rivière est canalisée. C'est de toute beauté.
T'as vraiment un volet historique extrêmement intéressant.
Ouais.
Mais revenons à la Greg. En 2019, vous déposez le projet. Le site en soi est quand même enclavé dans plusieurs juridictions qui permettent de dire que ça va être assez long en termes de processus. Mais vous allez quand même de l'avant. Vous créez un groupe qui veut faire la promotion de cette chose-là, du centre d'interprétation. On est en 2025, presque 2026. Aujourd'hui, vous avancez encore sur le projet, ça existe encore. Vous n'y êtes pas nécessairement encore arrivé. Vous avez un échéancier qui est quand même assez long.
C'est dur de résumer ça en une histoire courte. En fait, comment ça a commencé? C'est après le dépôt du mémoire, on n'a pas entendu parler de rien jusqu'à... Il y a eu la pandémie qui est arrivée.
Ouais.
À l'été 2020, le directeur du service d'urbanisme nous a contactés et nous a dit, on monte un comité de travail sur la station Craig. Vous êtes les seuls qui ont proposé quelque chose qui faisait du sens comme projet de revitalisation ou de réutilisation du bâtiment. Ça intéresse-tu de venir participer à la discussion? Fait qu'on a fait comme, oui. Nous autres, on avait déjà tous des plans de « Hey, on va faire ça. » Mais eux autres, ils arrivent, puis deux ou troisième meeting, parce qu'on se rencontrait une fois par mois, ils disent « Bon, on a mandaté une firme d'ingénierie en structure pour faire l'état de la structure.
Ouais. »
Parce que tu te souviens, quand je t'avais amené dans Craig, il y avait des étaiements à l'intérieur,
oui,
qui soutenaient le building, qui empêchaient le building de s'effondrer sur lui-même. Puis ça, c'était en 2016. Ce qui, imagine, là, 2019-2020, 4 ans plus tard.
Ça s'était pas amélioré.
Non, là. Parce que le trafic lourd sur Notre-Dame puis Vigée crée beaucoup de vibrations. Puis ce bâtiment-là est très allergique aux vibrations, donc il se désolidarisait de partout.
Oui, parce qu'à l'origine, on s'entend que quand ça a été construit, il n'y avait pas un pont qui passait au-dessus, il n'y avait pas une autoroute à côté. Là.
Non, ah non, c'est une survivante, la Craig, je veux dire, comme tu dis, elle a survécu aux démolitions du Faubourg Amelas, la construction du pont Jacques-Cartier, l'autoroute Ville-Marie, Radio-Canada, tout ça, c'est une battante. La Craig, c'est une, ouais, survivante, puis c'est dommage parce que elle a fini par disparaître du paysage de façon temporaire maintenant, mais ça a commencé à l'hiver 2020, quand la cheminée montrait des signes de faiblissement, ils ont été obligés de démolir la cheminée pratiquement sur toute sa hauteur. On s'est battu fort juste pour faire récupérer les briques. Parce qu'ils s'en allaient jeter les briques, là, puis les amener à une place pour les faire écraser puis épandre ces chemins de campagne en hiver.
Parce que c'est ça, ça a été déconstruit dans le but éventuellement de pouvoir le reconstruire à l'identique.
Oui, puis ça, c'est parce qu'on l'a poussé pour.
Oui.
Parce que nous, on avait des plans de faire le musée tel quel. Là, quand ils engagent la firme à l'été, les résultats de la firme, 3 mois plus tard, disent « Bon, on a 3 solutions à vous proposer. » Soit une rénovation complète qui va coûter une fortune, les yeux de la tête, soit un démantèlement préventif, transformation en ruine urbaine, c'est ce qu'on a été choisi. Une autre qui était démolition complète.
OK.
Là, on a fait comme aide démolition, là. Mets-toi ça, ce que je pense. Puis on dit, ben regarde, si on peut démanteler avec une récupération sélective des matériaux, tout ce qui est récupérable. D'ailleurs, 80% de la pierre de taille a été récupérée. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Pas grand-chose qui a été jeté, à part ce qui était irrécupérable, bien sûr. Mais ce qui est intéressant avec ce projet de déconstruction-là, c'est que les matériaux ont été entreposés sur des sites sécurisés de la ville. Et ça a permis aussi à certains étudiants, à certains programmes de restauration patrimoniale, de se faire les dents sur, mettons, les fermes de toit de la Craig qui ont été reproduites.
Qui ont été
modélisées puis reproduites qui vont être refaites éventuellement
par
ces étudiants-là. Même chose pour, mettons, les tailleurs de pierre ou des trucs comme ça. D'ailleurs, les forges de Montréal qui sont très, très, très étroitement investies dans le projet aussi. D'ailleurs, les forges, je pense que c'est important de mentionner, ils occupent la sœur jumelle de la station Craig. Ils sont dans la station de pompage Riverside.
Qui est située
à côté de Canada Maltage, Farine Five Roses, dans ce coin-là.
Sous Bonaventure.
Oui, exact. Puis, eux autres, ben, comme ils font du fer forgé, il y a beaucoup d'éléments à faire forger dans le bâtiment, dans la Craig. Donc, eux autres, ils s'occupent de refaire, de tout reproduire les patrons pour refaire les meneaux de fenêtres, les contrepoids pour ouvrir et fermer des fenêtres. En tout cas, fait que Mathieu Collette fait un job incroyable là-dessus. Fait qu'on était bien entouré pour ce qui est côté artisan de chantier. Fait que le démontage du bâtiment s'est fait selon les règles de l'art.
Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. On a décrit un peu la station Greg, mais à quoi qu'elle servait concrètement lorsqu'elle était en activité, cette station-là?
La raison d'être de la station Craig ainsi que de la station Riverside, c'était en fait pour prévenir les inondations qui étaient un problème récurrent à l'époque, au 19e siècle à Montréal.
Au printemps, dans le fond. Là,
vers la fin de l'hiver, là, ce qui arrivait, c'est que dans le courant Sainte-Marie, à la hauteur proche du pont Jacques-Cartier, puis aussi, pas à la hauteur des rapides de la Chine, mais en tout cas, pas trop loin à cet endroit-là. Désolé là, si je manque un peu de savoir focusé.
De précision.
Je sais juste que la formation d'embarques de glace sur le fleuve Saint-Laurent durant l'hiver empêchait l'écoulement normal du débit de la rivière. Fait qu'évidemment, il y avait toujours des débordements. Donc ça, la basse ville, qui était au niveau bas, si on veut, subissait le contre-coup de ces inondations-là, ces refoulements-là, notamment avec l'inondation record de 1886. Si je ne me trompe pas, c'est pas loin du Pointe-à-Caillère, à place du Ville, il y a une marque... Il y a une pierre qui marque le niveau haut atteint en 1886. Mais pour te donner une idée visuelle, là, tu parles, mettons, au square Chaboyer, là, proche de la Dare, là, le monde se promenait en chaloupe. Là.
OK.
Tu avais au moins 2-3 pieds d'eau de haut.
Wow. Fait que ça, c'est un problème qui était récurrent à Montréal.
Oui, à Montréal.
Donc, on est à peu près dans les années 1880.
Oui, puis... Je te parlais un peu plutôt la grande époque de construction des grands collecteurs à Montréal, c'est dans les années 1860. Fait qu'il y a eu un plan de drainage qui a été fait. Donc, au début là, du 18e siècle, les égouts, ça se construisait à l'emporte-pièce. C'était souvent des propriétaires privés qui construisaient des sections d'égouts pour aller rejeter l'eau un peu plus loin. Mais c'était pas un réseau cohérent
et structuré.
Là. Donc, il y a eu plusieurs plans qui ont été faits. Je ne vais pas rentrer trop profondément dans l'histoire des égouts de Montréal parce que juste ça, c'est une histoire rocambolesque en soi, mais une histoire très intéressante. Donc, pour peut-être les personnes qui écoutent le podcast présentement, je pourrais les référer vers le livre « Question des goûts » de Robert Gagnon. Okay. C'est un excellent livre qui raconte l'histoire de la période victorienne à Montréal, qui beaucoup du savoir que je connais, je l'ai pris de ce livre-là. Donc, je ne suis pas un précurseur, là, je dois pas mal tout à Robert Gagnon.
C'est une Bible qui te sent, n'est-ce pas?
C'est ma Bible. Tu devrais voir le nombre de petits post-it et de trucs soulignés que j'ai là-dedans parce que ça m'a beaucoup aidé à rédiger le mémoire, à faire aussi de la recherche historique, trouver des dates, faire une ligne de temps là, de tous les événements. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que Toronto était à la remorque de Montréal, que Montréal était quand même avant-garde au niveau de la conception et de la construction des égouts collecteurs. On trouve des égouts en briques. Tu aurais l'impression d'être à Londres ou à New York, là, dans Ninja Turtles. C'est typique. Donc, Robert Gagnon, son livre est très intéressant. Donc, mais pour te refaire une histoire un peu plus courte, les inondations records de 1886, c'est là que la ville a fait comme, bon, il faut vraiment faire quelque chose.
Il faut trouver une solution.
Les collecteurs étaient construits, les grands collecteurs venaient d'être finis d'être construits. D'ailleurs, en 1876, ils ont refait au complet l'égout Craig, qui s'écoulait dans plusieurs directions différentes avant d'être construit. Parce que l'égout Craig a été construit en 1835, en 1845, ils ont rajouté des bouts, ils canalisaient des sections de rivière, mais jamais aux mêmes dimensions, dans le même sens d'écoulement, parce que je te dis, la rivière, elle serpentait beaucoup. Fait qu'ils ont changé le sens d'écoulement de la rivière une couple de fois pour finalement, en 1876, partir du Square Victoria, mettons. Okay. McGill Square Victoria. C'est là que le collecteur Craig
commence,
prend sa source si on veut, et puis termine sa course au pied du pont Jacques-Cartier.
Okay.
Donc, sur à peu près 2,69 km avec 3 mètres de dénivelé.
Quand même.
Ils ont eu des problèmes durant la construction, ils ont pogné des sables mouvants à hauteur de la rue Saint-Antoine, dans le fond, l'ancienne rue Craig. Un problème qui est encore persistant de nos jours, les entrepreneurs, quand ils doivent creuser des bâtiments, ils doivent les pieuter de façon spéciale parce qu'il y a du sable mouvant dans ce coin-là. C'est fou. Okay. Hein?
Mais ça, dans le quartier chinois, je crois qu'ils ont ça comme problématique.
Tout le long de Saint-Antoine, dans le fond. Okay. Tout le long de la vallée de l'autoroute 20.
Okay.
L'autoroute 20, le tunnel Ville-Marie, il est dans l'axe de la rue Saint-Antoine. Puis à hauteur de la rue Panay, le tunnel ressort de terre. Bien, il est comme dans l'emprise de l'égout Craig. Okay. C'est pour ça, plus tôt, je te mentionnais que l'égout Craig est comme semi-abandonné parce qu'il a été déconnecté de toute la portion en amont qui vient du centre-ville à cause du tunnel Ville-Marie qui rentrait en conflit avec cet égout-là. Donc, toute la partie à l'est du tunnel Ville-Marie, pardon, est encore en fonction, mais elle ne collecte plus les égouts, les eaux sanitaires de, je ne sais pas moi, l'édifice de la Gazette, de la Presse, de la Banque de Montréal, etc. Tous les édifices qu'il y avait à hauteur de la place d'Armes jusqu'à Square Victoria. Donc, beaucoup moins de débit, ce qui est favorable pour nous, en fait, puis aussi pour amener le public. C'était ça un peu notre idée de base, c'est « Hey, cet égout-là est comme pratiquement abandonné, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, puis c'est pas de l'eau sale. On voit pas de papier de toilette, de botches de cigarettes, de condoms, de matière fécale, c'est juste de l'eau. »
Tu vois juste qu'est-ce que la pluie va ramasser. Là.
Pratiquement.
Ouais.
Donc, pour revenir aux fonctions de la station Craig, parce que, comme vous voyez, je tourne en rond sur plusieurs sujets.
Moi, je trouve ça intéressant d'être ça, là.
C'est parce que quand je suis tellement passionné sur quelque chose, je vais partir sur les synapses que mon cerveau vont lancer, là. Donc, la fonction principale de la station Craig puis Riverside, qui était construite en bout de réseau d'égouts de l'époque, donc juste avant le rejet des eaux vers la rivière. Dans le cas de la Riverside, les eaux se jetaient dans le bassin Peel ou dans le canal de dérivation. Le canal de... Comment je pourrais dire de... Je cherche le mot. De régulation du niveau du canal de la Chine.
OK.
Donc, c'était aussi les tailrays de Farine Five Rose. Toute l'eau qui servait à alimenter les moulins de Farine Five Rose était rejetée dans un tailrace.
On parle d'eau sale. Là.
Non. C'est l'eau du canal de la Chine qui rentrait, qui alimentait une roue à eau, puis qui ressortait.
Ah,
un peu comme une centrale électrique.
C'est pas les eaux usées de l'usine une fois qu'ils ont fait leur
non. Je sais pas si tu as déjà été dans le coin de la building Corticelli, proche de Saint-Patrick, Pointe-Saint-Charles. T'as comme le canal qui rentre en dessous des bâtiments.
Okay.
Ça, c'était des coursives qui servaient en fait à alimenter par la force hydraulique du canal, parce que tu as des écluses, donc un changement de dénivelé. Tu as les écluses Saint-Gabriel à hauteur des Seigneurs. Là.
Ouais.
C'est direct en face de Building Corticelli. Fait qu'eux autres, il y avait des coursives qui prenaient l'eau, qui alimentaient toutes les mills, là,
les usines.
Par la force hydraulique du canal. Puis après, l'eau, une fois qu'elle a fait sa job à travers la turbine, était rejetée par ce qu'on appelle un tail race, puis retourner au canal.
Ah, OK.
Ça, c'était beaucoup d'usines qui étaient comme ça. La Five Rose, elle faisait pas exception à l'époque. Les moulins à farine étaient activés par la force du canal de la Chine, en fait.
OK.
Donc, Riverside était construite en bout du réseau des égouts de Pointe-Saint-Charles. Puis la Craig, elle faisait tout le reste, centre-ville, basse-ville, centre-sud, Ville-Marie.
OK.
Mais servait la même fonction. Donc, à l'hiver, lorsque la formation d'embarque, la saison des embarques arrivait, ils fermaient l'écluse dans l'égout. Donc, toutes les eaux qui arrivaient en amont, qui venaient des maisons, des usines, à frapper un mur, à remplissaient l'égout, puis évidemment, s'en allait vers éventuellement, à remplissait assez pour aller vers les pompes. Puis tout ce que les pompes faisaient, c'était rejeter l'eau de l'autre côté de l'écluse. Et avec la force de la pression hydraulique, les embarques qui étaient créés par le fleuve. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs que les égouts à l'époque se rejetaient directement à la rivière. Donc, ça créait une connexion ultra facile pour l'eau de suivre le chemin de la moindre résistance, si on veut. Donc, remontait par les égouts, puis inondait les caves, inondait les rues, etc.
Beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, mais pour d'autres circonstances.
Exact. Donc, la seule fonction des stations Craig, c'était d'empêcher que l'eau de la rivière pouvait remonter par les canalisations. Donc, ils fermaient une porte, puis ils pompaient d'un côté à l'autre.
OK.
Aussi simple que ça. C'était pas dans le but de... Normalement, une station de pompage, c'est faite pour relever des eaux d'un niveau plus bas à un niveau plus haut pour continuer un écoulement gravitaire par la suite. Dans ce cas-là, c'était vraiment une autre application.
OK.
Mais puis, tout le génie victorien, en fait, derrière ça, là, qui est intéressant.
Puis cette série, ces pompes-là, officiellement, bon, ça a arrêté de fonctionner quand Ville-Marie a été construite?
C'est venu par plusieurs étapes. Bon, ça a été en fonction au moins jusqu'au milieu des années 50.
Okay.
Donc, à chaque hiver, il y avait des employés qui travaillaient là, qui mettaient du charbon dans les chaudières, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, ces pompes-là, puis c'est aussi une des caractéristiques super intéressantes puis uniques de ce site-là, c'est que c'est des pompes à vapeur. Donc, c'est des pompes qui étaient alimentées par la pression que des chaudières à vapeur qui étaient installées au rez-de-chaussée produisaient. Donc, il y avait un circuit fermé, vapeur, eau.
Qui sont les gros trucs oranges qu'on voit à l'intérieur?
Ça, c'est les pompes.
Ça, c'est les pompes.
Ouais. Okay. Les pompes centrifuges, ça ressemble à une cage d'écureuil, normale, avec le refoulement.
Cage d'hamster.
Ouais, exact. Donc, c'est plutôt les petits moteurs à côté. Fait que normalement, qu'est-ce que tu as sur une pompe électrique? Tu vas avoir la même pompe avec branché sur l'arbre d'entraînement, ça va être un moteur électrique.
Okay.
Le moteur électrique qui fait tourner l'arbre, qui fait tourner la roue à aube, qui produit la pression de la pompe. Dans le cas de la Craig puis la Riverside, l'électricité, elle n'existait pas encore en 1887. Donc, il servait de la force motrice de la vapeur. Il y avait un circuit fermé qui envoyait, dans le fond, il produisait de la vapeur par les chaudières, envoyait la vapeur au sous-sol. Une fois qu'elle avait fait tourner la roue à aube, la vapeur condensait en eau. Était repompé vers la chaudière, puis c'est un circuit à répétition éternel.
Est-ce que ça veut dire que c'était des pompes, la station Greg était utilisée principalement en période de crue printanière?
Oui, seulement en hiver.
OK.
Fait que c'était saisonnier.
Fait qu'en été, il n'y avait rien qui se passait là.
Je pense pas. Le fleuve s'auto-régulait normalement. Oui. À moins qu'il y ait des petites inondations de temps en temps en été, mais c'était principalement à cause des embarques de glace au printemps, fin de l'hiver, printemps. Puis, ce qui est arrivé, parce que là, tu me demandais pourquoi elle a fini par tomber à l'abandon, ça s'est fait de façon assez graduelle, je te dirais. Là. Ça ne s'est pas arrivé d'un seul coup, mais elle a fonctionné pour ça jusqu'au milieu des années 50. Au milieu des années 50, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu la création de la voie maritime du Saint-Laurent. Ils ont dragué le fleuve aussi. Fait que ça l'a grandement aidé à réguler le débit du fleuve puis à faire moins d'embarques. Je sais que la voie maritime du Saint-Laurent a entraîné la fermeture du canal de la Chine, le déménagement des usines qui ont créé, en fait, l'empire industriel que Montréal était à l'époque. Ça l'a disparu beaucoup. Mais la voie maritime du Saint-Laurent faisait que maintenant, Montréal n'était plus le port d'arrêt des bateaux où ils pouvaient se rendre jusqu'au Grand Lac. Fait que ça nous a fait perdre beaucoup d'industrie, mais ça l'a aussi fait que maintenant, le canal, la voie maritime était comme utilisée à l'année longue. Donc, je pense que ça donnait une voie de relâche, soit pour relâcher la pression, la surpression de l'eau, en fait, pouvait au moins bypasser par le...
Puis il y a le fait aussi que les hivers, il y a de moins en moins de glace sur le fleuve, ça doit faire en sorte.
Je pense pas qu'à l'époque, les changements climatiques étaient aussi intenses qu'aujourd'hui.
Non, ça, d'après moi. On parle d'une époque en 1880 où il y avait encore des ponts de glace qui traversaient entre Saint-Lambert puis Montréal.
Exact.
Chose qui n'existe plus depuis très, très longtemps. Le fleuve ne gèle plus à l'année. Fait que ça a quand même dû impacter au bout de la ligne de dire ben, on n'en a plus besoin de ces installations-là.
Ouais, ben, comme je te dis, la première raison, ou en tout cas, qu'est-ce qui a éliminé en grande partie, peut-être pas à 100%, les inondations, c'est la voie maritime. Ensuite, je sais que la station Craig, ils ont mis vraiment la clé dans la porte finale, dans le sens que le bâtiment est devenu un bâtiment excédentaire du parc immobilier de la ville de Montréal. Ça, c'était en 1987.
Okay.
Puis ça coïncide avec l'époque où est-ce qu'ils creusaient le réseau d'intercepteurs qui allait mener à l'usine d'épuration. Parce que jusqu'à à peu près en 1990, Montréal rejetait ses égouts non traités. Puis ça, faut pas s'alarmer. Là, toutes les villes faisaient ça à l'époque. Rejetaient leurs eaux d'égout non traitées dans le fleuve ou dans les rivières. En 90, on a construit l'usine d'épuration à Rivière-des-Prairies. Puis, il y a un système d'intercepteurs qui ceinture les deux rives nord et sud de l'île de Montréal, puis qui sont assez grands d'ailleurs pour rouler un tunnel de métro, là, une rame de métro
dans ce tunnel. Ça doit être assez grand.
C'est en moyenne entre 4 et 6 mètres de diamètre comme tuyau. C'est haut. Puis ces deux tunnels-là qui ceinturent l'île de nord et sud se rejoignent à Rivière-des-Prairies. Donc, tous les égouts qui se jetaient à Rivière-des-Prairies ou au fleuve maintenant sont interceptés par ces conduites-là qui sont enfouies très profondément dans le sol. Donc, plus de rejet d'égouts, plus de risques que le fleuve refoule par les égouts. Donc, la station Craig n'avait et Riverside n'avait plus de raison d'être, donc c'est ça, ils ont fermé les stations.
Parce que on a eu la chance d'y aller, toi puis moi. Tu m'as invité dans le cadre de
En fait, c'est toi qui m'as invité à participer.
C'est moi qui s'est invité en t'invitant. Pour faire une histoire courte, j'avais été contacté par une équipe de télévision qui cherchait à faire un épisode sur l'Urbex. Et la façon dont fonctionnait l'épisode, c'était qu'il y avait un premier volet soft, un volet un peu plus médium, puis un volet un peu plus hardcore. Fait que le but, c'était moi, dans un premier temps, je les emmenais dans un lieu abandonné qui était somme toute relativement bien encadré, là, qui était dans le cas présent, la prison Winter à Sherbrooke, parce qu'il y a moyen d'avoir des autorisations. Et éventuellement, ben là, on entrait dans le monde qui était un peu plus de l'infiltration, où est-ce qu'on est allé dans les égouts. Et où est-ce que vous leur avez fourni, après ça, des séquences d'une infiltration, où est-ce que vous étiez allé dans une autre usine à Montréal? Fait qu'on avait eu la chance d'aller dans la station Greg, dans le sous-sol. On était quand même plusieurs. Puis je veux qu'on parle un peu de ça.
Oui, je pense que toi, t'as aussi ton expérience à partager. Oui,
parce que toi, t'es un expert. Tu es allé souvent, tu connais bien l'environnement. Moi, dans mon cas, moi, c'était une première expérience. Je suis un photographe qui aime prendre son temps, qui n'aime pas être accompagné d'un troupeau de personnes autour de moi. Dans ce cas-ci, c'était exactement ce que je détestais le plus.
L'équipe de production, je pense qu'il y avait déjà 4 personnes, 5 personnes.
Exact.
Il y avait beaucoup de monde. Ouais.
Il y avait nous, on avait aussi
deux autres amis
qui étaient avec nous. Fait qu'on était, on était
7, pas loin 8, 10, 10,
ouais. On était pas loin d'une dizaine. Puis on s'entend, un égout, c'est pas comme une maison. Tu peux pas envoyer un dans une pièce puis l'autre dans l'autre pièce. Tu finis quand même par de marcher sur les pieds.
Tout petit, puis moi je les trouve même à la limite cute. On va voir comment c'est fait. On voit l'embedder de la pompe. Bon, let's get down to real shit now. Ben, ah oui, toi! Pendant qu'il y avait des inondations, j'avais cette porte-là. De l'autre côté, ça devenait pressurisé, l'eau du fleuve, l'inondation augmentait. L'eau s'accumulait ici, je ne veux pas le niveau d'eau monter assez pour alimenter les ponts. Peut-être 200 mètres à faire. Fais attention, le fond, il est pas mal glissant. Faites attention, ici, ça décroche, ici, c'est plus profond. Tu peux voir la profondeur pour l'eau.
Plusieurs surfaces, plusieurs niveaux, en haut comme en dessous. Et voilà.
T'sais, première chose, ben, on parlait un peu de la structure de briques, on parlait un peu bon, de ce qu'on retrouve. Il y a un peu de stalagmites, stalactiques, qui se créent dans ce genre d'interface-là. Tu as une odeur, mais il y a une chose qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est que quand on y était allé, il y avait quand même une grosse humidité ambiante qui faisait que T'avais de la brume dans tes lunettes, Ginette. T'avais de la brume sur ta lentille. T'en avais un peu partout. C'est quand même déstabilisant comme ambiance. Là. On n'est pas en train de photographier des oiseaux à libre dans un parc. Là.
Non, j'avoue qu'on n'a pas eu le meilleur des timings quand on est allé cette fois-là. Il faut mentionner, c'est pas toujours comme ça, la brume. C'est bon de mentionner aussi qu'on est allé en hiver, donc nos caméras étaient froides. Sous terre, c'est toujours tempéré à 15 degrés.
Ouais.
Il fait toujours 15 degrés sous terre, été comme hiver. Donc, nos caméras froides ne veulent pas frapper.
Font de la condensation.
C'est ça, la condensation arrive. Faut que tu laisses le temps à ton équipement de se réchauffer, de se tempérer.
Ouais.
Mais malgré tout, cette soir-là, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de brume atomisée dans l'air, juste dans l'humidité de l'eau. C'était pas nécessairement la condensation elle-même ou le froid. On serait descendu dans les mêmes conditions atmosphériques en été, puis on aurait eu le même problème.
Ouais.
Mais ça, pour être allé là plusieurs dizaines de fois, je te dirais que c'est peut-être 20% du temps qu'on va avoir des conditions comme ça. C'est sûr que s'il pleut à Sio dehors, il y a des conditions qui vont être plus propices à la création
de vapeur. Il y a des moments où est-ce que c'est préférable de ne pas y aller, justement après une averse.
C'est ça. Si j'avais un conseil à dire, mettons, aux wannabe drainers qui nous écoutent, là, aux gens qui voudraient s'intéresser à explorer des drains, jamais faire de drain quand il pleut.
Non.
Toujours regarder la météo avant, surtout si c'est un drain pluvial, mais les égouts combinés, c'est la même chose. Tu vas avoir de l'eau de pluie là-dedans. Donc, à moins que tu saches qu'il y a zéro danger en connaissant le lieu, parce que je vais avouer que je suis descendu dans les crêtes par plusieurs conditions météorologiques différentes, entre autres dans le but de tester le fait, est-ce que c'est sécuritaire d'amener le public en temps de pluie?
OK.
Parce que, comme je t'expliquais avec ce qui nous était arrivé à Vienne, on s'était fait évacuer pendant notre visite. Je me disais, est-ce que ça risque de se produire à Montréal? Puis un soir, Daniel et moi, on avait cété une visite, je pense, amener quelqu'un qui était en ville, puis il pleuvait à boire debout, là, mais la grosse averse, la grêle, c'était pas beau. Là. Puis on est descendu par le sous-sol, descendu dans la craigue, puis le niveau d'eau avait à peine monté de un pouce.
Même OK. Pas.
Fait que c'était sécuritaire. Et pourquoi? C'est parce que l'égout Craig, avant, il se jetait au fleuve, mais maintenant, il est intercepté par les structures d'interception dont je mentionnais plus tôt. Donc, tu as une chute de 10 mètres avant de tomber dans un autre égout plus profond qui, lui, se jette encore plus profond dans l'intercepteur plus loin. Fait que tu as un méchant dénivelé à combler qui doit se remplir avant d'inonder ton égout qui est presque en dessous de la rue.
OK. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais si on revient un peu à la photo, bon, dans le cas, quand on y était allé...
Tu comptes ton expérience.
Oui. Je sais où est-ce que tu veux t'en aller, là.
Nulle part en particulier, mais avant que tu oublies, il faut que tu nous parles de ton point de vue.
Bon, ben, parlons...
Pas obligé de mettre ça au montage, mais...
Mais bon, dans ma préparation, moi, je suis quelqu'un qui aime bien se préparer en sachant où est-ce qu'il va, puis en s'équipant en conséquence. Ce qui veut dire que dans le cas présent, je m'en vais dans un égout... J'avais mes wetters, j'avais mes pantalons de pêcheur qui montent jusqu'en haut de la poitrine. Fait que je me disais, bon, je sais pas à quoi m'attendre.
C'est sale.
C'est sale, puis bon, je préfère ça. C'est plus facile de laver des wetters quand tu sors que de commencer à changer de linge puis à mettre ça dans un sac vert. Fait que bref, on s'était parlé, je m'étais équipé en conséquence. Je suis pas arrivé là comme un touriste qui sait pas dans quoi qu'il s'embarque. Fait que bref, tu descends là-dedans. C'est sûr que la première chose qui saisit, c'est vraiment l'odeur. Tu t'habitues. Dans mon cas, moi, après 10-15 minutes,
tu le sens
plus tellement. Tu le sens quand tu ressors. Tu sens ton linge qui sent. Mais sinon, à l'intérieur, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme une étame. Ça sent la vache. Ça pue.
Mais c'est une odeur particulière. Mais c'est pas une odeur qui lève le cœur.
Non.
C'est pas une nausée à bon, c'est juste très particulier.
Exact. Fait que bref, quand on a descendu, bon, si tu parlais de rats, on en avait vu un. Honnêtement, je m'attendais à en voir un. Je n'ai pas vraiment été surpris.
C'est drôle parce que moi, je m'attendais pas à en voir parce que j'en voyais. Comme je te dis, j'en ai tellement vu rarement des rats que je pensais pas qu'on en frapperait. Fait que t'as eu quand même.
J'ai eu l'expérience totale.
T'as eu une belle expérience.
Puis bon, ben là, c'est ça. T'as la structure, t'as les goûts, t'as l'espèce de petite passerelle aussi. T'as un peu toute l'ambiance. Mais moi, ce qui me déroutait un peu, c'est que tu as toujours une espèce de petit filet d'eau, mais tu ne sais pas nécessairement dans quoi tu marches, puis c'est pas toujours nécessairement à lisse. Ce n'est pas un beau trottoir.
Il y avait beaucoup de débris,
C'est ça. Fait que, tu sais, à un certain moment donné, ben je me suis enfargé, puis je me suis ramassé les
mains dans
l'eau. Puis j'ai perdu mes lunettes. Heureusement pour moi, c'était vers la fin, mais naturellement, je me suis pas mis une lunette sur le bout du nez. Je les ai mis dans mes wetters, je les ai lavées et relavées par la suite. Mais effectivement, de se ramasser les mains là-dedans, je portais des gants. Fait que, tu sais, j'ai tout simplement retiré mes gants. Puis je pense même que j'en avais deux paires. Fait que, tu sais, ça fait partie de l'expérience. Il m'est arrivé aussi plein d'affaires dans des différentes explorations. Mais dans ce cas-là, ça, c'est ce qui m'était arrivé. J'avais été voir un peu. On peut aller voir l'espèce de grosse chute, même si on s'approche relativement pas trop pour... ça ne te tente pas nécessairement de glisser parce que... Si tu glisses, t'es fini.
Ah oui,
le courant est assez fort pour.
Ils vont te retrouver deux jours plus tard dans la station d'épuration.
Le nez coincé dans une turbine. Là. Fait que bref, c'est quand même déroutant. Je ne peux pas dire que j'ai nécessairement trippé beaucoup parce que, ben, justement, le fait qu'il y avait du monde, le fait qu'on était coincé quand même dans un horaire relativement court. Mais en fait, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça qu'on y retourne, prendre le temps vraiment de faire des photos. Je suis quelqu'un qui prend son temps et qui veut vraiment réfléchir à ses photos, mais j'ai quand même réussi à en tirer quelque chose. C'est quand même, au-delà du fait que ça soit très déroutant, il y a quand même un point de vue photographique qui est très intéressant. Là-dessus. Toi, de ton côté, quand tu vas faire de la photo dans ces endroits-là, comment tu te prépares? Qu'est-ce que tu amènes avec toi? Puis on s'entend, je devine que tu t'en vas pas là juste avec un téléphone sur le mode automatique pour tes photos. Ou quoi que ce soit, tu as quand même une certaine préparation à faire.
Oui, bon, écoute, moi, j'ai commencé à explorer, je ne connaissais rien de la photo. Donc, j'ai, à force de côtoyer des photographes amateurs avancés, et même certains photographes plus professionnels, j'ai compris vite qu'un petit point and shoot Canon en mode automatique, ça va pas loin. Pas de trépied, ça va pas loin. Donc, éventuellement, évidemment, je veux dire... Il faut que tu t'équipes d'un bon appareil photo. Donc, on parle d'au moins un DSLR là, avec une lentille interchangeable. Un trépied, c'est aussi
obligatoire.
Bon, du simple fait que tu peux pas... Si tu veux faire une belle photo qui a une bonne texture, tu peux pas juste faire une photo avec un flash courte exposition.
Tu vas faire de la longue
exposition. Il faut faire de la longue exposition. Ouais. Aucun choix là-dessus. Mais... C'est sûr que mes premières photos dans le noir total, c'est pas mes meilleures. Je t'expliquais tantôt, le drain à Laval, c'était un drain en béton. J'avais une lampe très blanche, lumière très blanche. Blanc sur béton, ça vient chier ta balance des blancs. Fait que j'ai pas pris de belles photos ce jour-là. Mais la photo souterraine m'a vraiment permis de peaufiner de parachever mon art puis mes skills, là, je sais pas comment dire en français.
Mes compétences.
Mes compétences, parce que je prétendrai jamais que je suis un bon photographe. 100 000 personnes qui sont meilleures que moi en photographie, ne serait-ce que juste en composition ou en traitement. Mais j'étais capable de me maintenir à flot, au moins de pouvoir dire « Ah, cette photo-là, j'en suis satisfait. » J'ai une couple de photos que je suis quand même très fier du résultat final. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours eu plus de difficultés en surface à faire des belles photos, surtout quand il y a un différent éclairage, comme l'éclairage qui vient de l'extérieur, balancer les tons.
Oui.
Tandis que pour moi, je trouve qu'un environnement qui est noir total, c'est le canevas parfait pour
travailler. Oui, parce que tu pars de zéro.
Tu crées ta lumière, c'est ça. Donc, en termes d'équipement, on a parlé du trépied de la caméra qui sont essentiels. Moi, je ne partais jamais sans au moins 3 ou 4 sources de lumière, plus un set complet de batterie de recharge. Fait que okay. Tu ne veux pas manquer de lumière quand tu es sous terre.
Non, c'est le pire
endroit. Moi, je ne partirais jamais, juste comme tu dis, avec une lampe de poche de téléphone. Donc, j'avais au moins 3 bonnes lampes qui me servaient toujours en même temps là, dans les photos. Fait que plusieurs sources de lumière. Parce que les premières photos, là, la première technique que j'utilisais, c'est le plus basic light painting possible. Donc, tu es derrière ta caméra est en longue exposition, ben, tu as 30 secondes pour
blaster tout.
Éclairer avec ta lampe de poche, puis éclairer tous les recoins. Ça va te donner une photo quasiment comme avec flash, mais un petit peu plus sombre, donc moins aveuglante. Mais qui va quand même manquer de texture.
Et qui va manquer de profondeur.
Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, ben, à force d'explorer avec d'autres gens, puis de regarder comment eux ils prennent les photos, puis de voir le résultat, faire hein, comment t'as fait ça? Ben, j'ai appris une couple de choses. Éclate et texture. Fait qu'une photo de 30 secondes, mettons, j'allais la commencer derrière la caméra, puis la finir devant.
Okay.
Fait que beaucoup de mouvements, beaucoup de courses, beaucoup d'éclairage. Tant que tu bouges, tu ne seras pas capté par ton capteur.
Exact.
Dès que tu t'arrêtes, c'est là que ça commence à être plus délicat. Donc, je commençais toujours un éclairage, un backlighting, si on veut, mais de derrière la lentille, fait indirect. Fait que j'avais une lampe de poche avec un diffuseur de lumière qui permet d'avoir une lumière plus d'ambiance. Souvent, cette caméra-là, cette lampe-là, je l'installais sur mon DSLR en équilibre sur mon trépied pour qu'elle reste puis créer comme une lumière d'ambiance qui vient de derrière la lentille. Par la suite, tant que tu es mobile, comme je disais, tu ne seras pas capté par ta caméra. Fait que souvent, ce que je faisais, c'est que je marchais dans le tunnel ou la pièce. S'il y a des obstacles verticaux comme une colonne ou quelque chose, j'allais pouvoir me mettre derrière.
Ouais.
Puis là, tu tournes vers ta caméra puis tu blastes ta lampe. Mais tu es caché par la colonne.
Tu as
un beau halo. Ça, c'est un autre backlighting qui est vraiment important parce qu'il va donner de la profondeur, il va donner de la texture. Puis la brique, c'est la meilleure texture pour donner du relief.
Oui, exact.
Donc ça, c'est une technique que des Australiens m'ont appris. C'est d'éclairer vraiment ta lampe collée sur le mur de brique puis de suivre. Fait qu'en envoyant tes rayons de lumière comme perpendiculaire, le long du mur, mais perpendiculaire aux éléments qui ressortent, ça va donner beaucoup plus d'ombrage et de texture.
Ça va étirer tes ombres.
Ouais. Fait que c'est ça. Puis souvent... les premières photos, moi, j'étais très « je veux montrer une photo de l'environnement tel quel ». Puis à un moment donné, tu te rends compte, les photos des autres sont meilleures parce qu'il y a une personne dedans. Puis la personne va donner un facteur d'échelle qui est intéressant aussi. Fait que là, je commençais à me positionner dans mes propres photos. Mais pour ça, toujours sans flash. Fait que donc, tu as besoin d'éclairer, mais tu vas toujours être silhouetté et non parfaitement éclairé. La lumière que je mettais derrière ma caméra pouvait quand même éclairer un peu mon dos, mais le fait que j'avais une autre lumière devant moi que je cachais, je pouvais me backlighter. Puis là, ça faisait un effet silhouette.
Ta silhouette ressortait un peu plus brute.
Fait que ça m'a pris des années à parachever mes techniques, puis vers la fin, j'étais pas payé, mais c'était tout le temps les mêmes settings. Hein. F7.1, exposition 30 secondes, parce que c'était le plus que je pouvais avoir sans avoir une télécommande. Puis je me maintenais bien là, ma Pentax, ça faisait bien la job avec ça.
Et ton ISO, tu le mettais le plus bas possible, je présume?
Ah oui, à 100, toujours.
À 100.
Je pense que j'ai jamais changé mon ISO sur ma caméra.
OK.
Peu importe les circonstances, moi, c'était surtout avec l'ouverture que je jouais, le temps d'exposition. Puis c'est sûr qu'avant de faire une bonne photo, tu vas en avoir pris 8 test shots, 8 essais. Des fois, tu es comme, j'ai trouvé la bonne méthode pour éclairer, mais oups, il y a un petit spec de trop de lumière blanche à telle place. Bon, on le refait. Je me souviens, une des photos que j'ai dû faire en collaboration avec quelqu'un parce qu'il y avait juste trop de job à faire, c'était dans un bassin de rétention à Montréal. Puis c'est le même bassin de rétention que j'ai amené l'équipe de TV dedans. Parce que comme tu sais, ils sont pas, on n'a pas pu faire le tourner l'émission dans l'égout Craig comme on avait fait pour le teaser parce que l'animateur, comme dernière minute, il a un peu chicken out. Il dit « Y a-tu quelque chose de moins hardcore que l'égout Craig? » J'étais comme « Ouais, ben rendu là, c'est un bassin de rétention puis il se passe pas grand-chose là-dedans. » Ben, on les avait amenés dans un bassin de rétention à Saint-Henri puis celui que j'ai photographié, c'était un bassin, le même bassin, mais en double largeur. Okay. Deux cellules de large. Fait que t'as comme trois allées de bowling, quatre allées de bowling, on appelle des rangées avec des colonnes. Puis à deux gars, sur 30 secondes, on a été capable d'éclairer. De courir puis d'éclairer derrière chaque pilier, se revirer, s'assurer que ta lampe, elle dépasse pas dans la lentille ou tu verras pas la lumière. Puis ça nous a pris, je pense, c'est ça, 10 ou 12 essais. On a passé une heure pour une photo, là, à 30 secondes d'exposition, replacer des. Là, se dire, OK, ben, il va falloir qu'on se time, qu'on se donne des cues.
Ouais, que tu calcules le temps que ça te prend par colonne, le temps de
se rendre. Ouais, 2 secondes par colonne ou 3 secondes. Si on a 30 secondes avec 5 colonnes, plus 5 secondes se rendre dans chaque colonne. En tout cas, tout a été calculé, puis au final, on a eu un beau résultat. Mais le secret, c'est d'en placer tes lampes. Tu trouves un petit side pipe ou un petit trou. Va placer une lampe là-dedans. Ça va donner un éclairage indirect.
Puis est-ce que tu es du genre à jouer après ça en post-traitement tes photos ou tu es du genre à travailler en amont puis que quand tu l'as dans ton ordinateur, ben elle est déjà comme tu le souhaites?
Ben je te dirais, c'est un peu des deux.
OK.
Tu veux minimiser le temps de travail en post-traitement. Donc, c'est sûr que tes shots, tant que tu n'es pas satisfait de ce que tu vois, ta composition, ta lumière, tout ça... OK, c'est correct, c'est pas trop surexposé ou sous-exposé. Après, le reste, c'est photo, pas Photoshop, mais
Lightroom.
Je me servais de Lightroom beaucoup. Puis Lightroom faisait des miracles. C'est sûr qu'après, oui, tu as de la retouche, mais c'est pas genre du HDR ou post-processing trop des couleurs un peu.
Sur un peu du contexte. Ou,
Non, moi, c'était vraiment de donner l'effet le plus naturel possible. Qu'est-ce que mes yeux ont vu? Mais c'est sûr que des fois, la brique est trop sombre. Là, bon, ben, un petit coup de pinceau, un petit coup de brush pour... donne-moi un petit peu plus de lumière ici, un peu moins de lumière là. J'ai appris à jouer avec les outils que Lightroom met à ta disposition pour justement donner une photo un peu plus crisp ou un peu plus de contraste à certains endroits. Mais là, ça doit faire au moins 6 ans que j'explore plus puis que je fais plus de traitement photo. Je ne suis pas quelqu'un qui partage beaucoup mes photos ou qui va poster abondamment sur les réseaux sociaux. Quoique je suis sur ces réseaux sociaux-là, mais de la nature de certains lieux qu'on explorait qui étaient un peu plus sensibles, que tu veux aussi aider à préserver le lieu puis son intimité. Vers la fin, je postais juste des photos d'égout, surtout, parce que, bon, ça, c'est plus dur à localiser. Mm-hmm. C'était aussi mon travail dans lequel j'étais le plus fier, photographiquement parlant. Mais il y a tellement de photos que j'ai jamais eu... je suis jamais venu qu'à avoir le temps de traiter ou de...
T'as encore des photos qui sont
de photos que je me souviens même plus qu'est-ce que j'ai. Il faudrait que je regarde, mais ça, comme je te dis, ça fait depuis la pandémie que j'ai pas fait vraiment d'exploration, donc je sais plus qu'est-ce que j'ai, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses que je me suis dit « Ah, ça va être intéressant le jour où que je vais processer ces photos-là. »
Puis, est-ce qu'aujourd'hui, bon là, t'as arrêté d'en faire, mais t'as-tu gardé le contact avec plusieurs personnes de ces communautés-là? Tu vois-tu encore dans leurs activités un peu partout?
Oui, pour la plupart des gens, oui, j'ai gardé des contacts, puis c'est drôle, on a comme tout vieilli en même temps.
Oui. Hein?
Puis on en est tous comme venus à la même conclusion qu'on se parle. Oui, on va encore à certains de ces événements-là, mais c'est plus tant pour l'exploration que pour catch-up. Ouais, l'aspect social de rattraper le temps perdu, reprendre des nouvelles des gens avec qui on a tissé des liens. Parce que veut pas, je comparerais la communauté d'exploration urbaine, le niveau de camaraderie que tu vas atteindre avec certaines personnes, là, similaire à un bataillon ou une compagnie de l'armée, là. Parce que tu vas faire des trucs illégaux ensemble, tu mets ta vie entre les mains de l'autre, puis l'autre met sa vie entre les... Tu sais, tu trosses mutuellement pour ta sécurité physique dans des endroits dangereux, mais aussi pour être un peu infiltré, puis tout ça. faut que tu fasses confiance à l'autre. Là.
Oui, puis moi, ce que j'aimais dans cette communauté-là, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui arrivent tous avec un bagage hyper différent. T'sais, moi, j'ai un bagage qui n'est pas du tout le même que toi et vice-versa. En temps normal, on ne se serait pas rencontrés. On s'est rencontrés dans le cadre d'exploration où est-ce qu'on a développé des affinités puis qu'on s'est dit, ben, on va garder le contact, on va aller explorer ensemble.
Tu vas faire mon site web.
Exactement, ouais. Ce genre de truc-là. Fait que tu sais, il y a cette espèce de volet-là que moi, que c'est pas du tout quelque chose que je pensais au départ, puis qui est arrivé en bout de chemin, puis tu te dis, hey, ben, tu sais, c'est le fun, même si on n'en fait plus, ben, il me reste encore des trucs intéressants.
Ah, j'ai énormément de gratitude pour ça. Je vais te dire, Jarold, c'est parmi les meilleurs amis que je me suis fait, puis des amis durables. Là. C'est,
ouais.
C'est des gens que désolé pour ma famille, mais que je considère autant de ma famille. c'est des gens que j'adore, que je considère vraiment comme des frères et des sœurs. Puis comme tu dis, on vient tous de des backgrounds différents.
Ouais.
Écoute, j'ai crapahuté dans des tunnels avec des chirurgiens, des avocats, des crosspunks qui traversent le pays en train de marchandises. Là.
Okay.
Tous des niveaux sociaux différents. Beaucoup de gens à l'école bleue. Des gens de bureau comme moi, des ingénieurs, des gens beaucoup en informatique puis en IT. Énorme bassin de gens qui sont dans le hobby, qui travaillent dans ce domaine-là. Mais de toutes les tranches de la vie, puis l'exploration urbaine transcende les statuts sociaux. On est tous égaux. On est tous socialistes. On va tous dormir chez quelqu'un. On va tous partager notre bouffe.
Il n'y en a pas un qui va dire, OK, lui, il est médecin, fait, je vais le vouvoyer ou quoi que ce soit. Non, non, on est tous sur le même pied d'égalité.
Exact.
Puis ce qui fait la différence, c'est parle-moi de ce que tu as exploré, puis c'est de même que tu sais que tu vas en venir à dire, ah, c'est cool ce que tu as fait. Là. Au-delà du fait que, dans la vraie vie, ben peut-être que cette personne-là, je ne l'aurais pas côtoyée parce que je n'aurais pas eu de point d'intérêt avec.
Absolument, c'est ça. C'est vrai. Moi, je ne côtoie pas des cross-punks dans la vie, là, mais j'ai beaucoup d'amis cross-punks qui font de l'exploration, qu'on trouve ça en commun, qu'on peut discuter, puis après, tu trouves d'autres points en commun aussi quand tu apprends à te connaître. Mais, tu sais... Des gens, comme je disais, des profs de flamenco, danseurs de danseurs, des profs de ballet, danseuses de flamenco, tu sais, des chirurgiens, des avocats, des caméramans, des facteurs. Je te dis, si on se ramassait tous sur une île déserte, on serait capable de rebâtir une société avec tous les métiers de chacun, on serait tous capables de combler un poste utile, tu sais.
Ouais.
Ça m'explose l'esprit, comme on dit.
Ce volet est super intéressant parce que ça, tu sais, on a toute une passion commune, mais on a toutes d'autres passions qui sont complètement ailleurs, qui sont autre chose. Tu joues de la musique, je fais d'autres choses. Ça fait en sorte que, tu sais, mettons, la musique, peut-être qu'on n'aurait pas d'intérêt, mais là, soudainement, pouf, il y a ce truc-là qui nous rattache puis qui fait en sorte que ben, Christy, on a le goût de se lever à 5 heures le matin.
Pour aller faire un road trip ensemble.
Exactement, ouais. À l'autre bout de la province ou à faire 5 heures de char.
Ben, tu sais, on parlait tantôt vaguement d'Australie. C'est un des meilleurs exemples. À l'époque, j'étais avec mon ex. Mon ex a passé 3 ans en Australie. Elle a vécu là, puis elle a vécu en Angleterre. Puis là, elle me parlait de l'Australie. Puis j'étais comme, pourquoi j'irais dans une place où est-ce que toutes les bébites plus petites que toi veulent te tuer? Je dis, moi, jamais je vais aller en Australie, jamais je vais aller en Afrique, jamais je vais aller en Asie. C'est même pas une question à se poser dans ma tête. Moi, c'est non. L'Europe, c'est ma place. Moi, j'aime bien l'histoire de l'Europe. Je trouve que c'est un beau continent. Ça se rapproche de ce qu'on vit ici. Tu sais, sans rancune pour les autres continents, comme je dis, là, c'était juste pas dans mes plans de voyage. Puis quand j'ai eu l'occasion d'aller en Australie en 2018, j'ai dit oui parce que j'allais aller explorer des drains, j'allais rencontrer des gens du Cave Clan, voir le fameux party annuel là-bas. Tu sais, j'étais prime en maudit. Là, puis j'ai fini par squatter dans des drains là-bas aussi. Ouais. J'ai mes premières nuits, mes meilleures nuits en Australie. Mes premières nuits dans des drains, je pensais pas être confortable comme ça. Puis j'ai vraiment bien dormi, puis j'ai vraiment bien récupéré.
Fait qu'au-delà de la photo, au-delà de l'exploration en soi, tu sais, il y a tout le à côté qui est aussi le fun.
Ouais, ouais. Mais ce qui est vraiment plus fort et qui transcende tout, comme on parlait, c'est des liens que tu vas créer. Puis c'est des liens imbrisables. Pareil comme des soldats qui se sont battus au front, qui sont battus ensemble, qui ont mis leur vie en jeu à plus petite échelle, mais le résultat est le même, c'est que cette personne-là, tu l'aimes à en mourir. pas d'un amour vicieux ou quelque chose, mais d'un amour fraternel que tu disais, je te donnerais ma chemise ou je me mettrais dans la marde pour toi, pour te sortir de la marde. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans d'autres groupes d'amis.
Il y a une question que je veux savoir. Toi, quand tu rentres dans un drain, est-ce que ton but premier, c'est de tout explorer en disant, si demain matin, le drain est rasé, j'ai tout vu ou j'ai tout photographié ce que je voulais faire, ou tu es du genre à y retourner de façon régulière pour essayer d'aller voir des trucs que tu n'avais pas vu la fois d'avant?
J'ai exploré plus de drains à travers le monde que, mettons, à Montréal. J'en ai fait beaucoup à Montréal. C'est sûr que si j'ai l'occasion d'y retourner, je peux le faire. Fait que oui, dans cette optique-là, si j'ai l'opportunité d'y retourner, je vais y retourner. Souvent, c'est pour amener des gens. Comme avec la Craig, les 150 fois que je suis descendu dans la Craig pour amener des gens, des fois, je vais y retourner juste moi puis Daniel pour prendre des photos, checker quelque chose. Fait que oui, mais des fois, c'est pas toujours possible. En Europe, en Australie, c'est un one-timer. Fait que tu y vas là, mais je repars tout le temps avec au moins une série de photos que je suis satisfait de, c'est sûr. Mais ma mentalité a évolué beaucoup avec les années. Je te dirais, il y a eu un shift en 2019. J'étais allé à Chicago pour un événement d'exploration, puis j'ai même pas amené ma caméra.
Okay.
J'ai amené mon téléphone cellulaire. Pourquoi? Parce que je voulais expérimenter le « Hey, j'ai pas de bagage à soute, j'ai juste un carry-on. » Fait que j'ai amené juste du linge, mon téléphone. Puis là, c'est là que j'ai compris, c'est-tu quoi, mon téléphone prend des assez belles photos pour des buildings abandonnés, même dans certains drains que je vais traîner ma caméra, mais juste pour une shot particulièrement. Tu sais, ce que je t'expliquais tantôt, Cyril, qui prend 6 photos dans un explo, là, je l'ai atteint, ce stade-là, à un moment donné, puis je me dis, je vais arrêter de prendre des photos. Il y a un peu de paresse à travers tout ça, là, setter ton trépied, sortir tout ça de ton sac quand t'es dans un drain.
Oui, parce
qui était au sec, puis après...
Tu n'emmènes pas avec ta caméra en bandolière, là, généralement.
Non. Peut-être dans un certain secteur, si tu sais que tu as beaucoup de caractéristiques à photographier, mais dès que tu as une longue marche à faire, même chose dans un catacombe, il y a tellement de sable, tellement de... Tu ne veux pas laisser ta caméra ouverte aux éléments, là, exposée aux éléments comme ça. Mais fait que dans des opportunités d'exploration de voyage, non, je peux pas y retourner. Fait que je m'arrange pour quand j'arrive dans un endroit dans le drain qui est propice à la photo, là, je vais prendre mon temps. Mais encore une fois, le problème, c'est un peu comme tu as subi dans Craig. Tu es avec un groupe, les autres prennent leurs photos, il y a tout le temps quelqu'un qui va se mettre la face dans ta shot ou qui va éclairer une place que tu veux pas. Puis à un moment donné, ben, si tu attends qu'ils repartent, là, c'est toi qui es laissé à la traîne, puis il faut que tu te rattrapes après. Fait qu'il y a un délicat équilibre à faire. Au final, les photos que j'ai prises, j'aurais peut-être pu en prendre des meilleures, mais je suis satisfait du résultat des photos que j'ai accumulées avec le temps. Mais ce qui était le fun avec la Craig puis les égouts à Montréal ou en banlieue, on peut toujours y retourner.
Oui, ça devient un peu ta cour arrière où est-ce que tu peux retourner.
C'est ça.
Puis, quand tu sors d'un égout, d'une structure souterraine, qu'est-ce qui fait qu'en sortant de là, tu te dis, à soir, c'était une bonne visite puis je suis bien content du résultat, versus, je suis sorti de là un peu amer ou quoi que ce soit.
Je suis jamais sorti de là amer. Fait que ça a toujours été des bonnes visites.
Ça a toujours été des bonnes visites.
Mauvaises visites, c'est quand tu ne trouves pas ce que tu cherches puis que tu ne peux pas rentrer dedans.
Okay.
Tu sais, que tu passes une nuit à lever des plaques puis que c'est juste des petits trous ou rien d'intéressant. Mais, somme toute, là, le comment qu'ils disent en anglais, what matters is not the destination, it's the journey.
Ouais.
Fait que ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination. Ben, c'est un peu ça, tu sais, les goûts. Si t'as eu du fun avec tes chums, si t'as trouvé des fois des drôles d'affaires ou une affaire insolite, tu fais comme « Ah ouais, ah, ok, hein, tu sais, je m'attendais pas à voir ça. » Je te donne un exemple. On s'en allait checker une piste un lead que j'avais sur un drain que j'avais trouvé sur Google Maps à Valleyfield, Guillaume puis moi. Puis on passe par Châteauguay. Puis j'ai dit « Ben là, j'avais aussi quelque chose, je voulais checker vite vite, une petite pin. Là. On peut-tu s'arrêter 2 secondes, on prendra pas de temps. » C'est jamais rendu à Valleyfield. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un labyrinthe de drains anti-Châteauguay. Fait qu'on va rester là, puis on va passer la journée. Je suis retourné 3 fois après finir d'explorer les secteurs que j'ai pas fait. Fait que ça, c'est les moments où est-ce que tu dis, OK, on trouve quelque chose, on fait notre première visite. Bon, là, des fois, c'est les contraintes de temps, on doit quitter. Au moins, on sait qu'on peut revenir, finir les endroits ou la branche qu'on n'avait pas vue la dernière fois.
Fait que tu arrives toujours à trouver ton petit bonheur à chaque endroit où est-ce que tu vas. Là.
Absolument. Puis ce qui est le fun, c'est quand tu trouves un drain que personne n'a jamais vu avant, comme Châteauguay, je pense pas que les. Je pense qu'on était probablement les premiers explorateurs urbains à rentrer là parce qu'il n'y avait pas un graffiti, il n'y avait pas rien.
C'est peut-être pas l'endroit auquel on pense en premier.
Non, parce que, tu sais, tantôt, tu me demandais ah, qu'est-ce qu'on trouve généralement sur les grandes villes. Je te disais, ben, plus la ville est grande, plus tu vas avoir des grosses infrastructures. Quand tu es dans une petite ville en banlieue, il y a tellement de terrains perméables que tu n'as pas nécessairement besoin de tout collecter l'eau puis l'envoyer vers les égouts. Donc, tu n'as pas besoin d'aussi gros égouts. Moi, je m'attendais pas à trouver des gros drains pluviaux à Châteauguay, là, par exemple.
Okay.
Puis, le fait de les voir là, ben, ça te prouve que, ah, ben, regarde, tout est possible si les conditions le permettent.
Ouais.
Puis, c'est sûr que ça sera jamais aussi gros ou intéressant qu'une grande ville comme Montréal, Paris, Londres, New York, mais tu trouves ton bonheur dans des choses inattendues, inattendues que la vie te met devant toi, là, tu sais, c'est...
Écoute, une dernière question pour toi. Dans le cadre de la station grecque, bon, on en a parlé un peu de tous les angles, son histoire, ce que vous voulez en faire. Vous avez commencé le projet en 2019. On est en 2000, on approche bientôt quasiment de 2026. Fait que 5 ans plus tard, est-ce que ça a avancé? Est-ce que tu penses que ça va aboutir? Est-ce que tu crois que tu vas vivre assez vieux pour voir un musée là ou tu vous êtes empêtré dans des dalles administratives, vu que vous avez plusieurs entités à gérer?
C'est sûr que tout ce qui se passe au niveau municipal, c'est long.
Oui.
On se l'était fait dire d'emblée en 2020, attendez pas que ça dure juste 2-3 ans et que ça va être fini. Évidemment, comme j'expliquais, on a eu des contraintes, des imprévus, comme la déconstruction du bâtiment c'était pas planifié au départ. Fait qu'on a passé, je te dirais, les 4 premières années du comité vraiment plus sur la déconstruction, qui était impliqué là-dedans, les partenaires patrimoniaux, etc., etc. Puis on repoussait tout le temps un peu à plus tard l'élaboration du projet final, le projet pérenne qui allait prendre place dans la crègue une fois qu'elle serait reconstruite. Le building est démoli. J'aime pas ça dire. Là, le building est déconstruit, mais on a encore des enjeux d'accès parce qu'on est sur un terre-plein d'autoroute. Fait que là, il y a plusieurs paliers de gouvernement qui sont impliqués sans nécessairement l'être, mais qu'il va falloir qu'ils soient impliqués. T'sais, on a une infrastructure municipale qui est sur un terrain provincial parce que c'est un terrain qui appartient au ministère des Transports. C'est une autoroute. Fait que c'est des voies rapides. C'est pas légal de se promener entre deux voies rapides. Donc, on n'est pas totalement légal de se promener sur le terre-plein de la crègue. Mais je pense pas que ce soit un gros problème dans l'état actuel. Maintenant, ce qui fait que ça se transforme sur un long terme, c'est que avant de pouvoir reconstruire le bâtiment, il faut que celui-ci soit reconnecté à la trame urbaine. Pour ça, il faut enlever une des voies d'autoroute. En tout cas, il faut changer un peu l'aménagement du boulevard. Puis ça relève un peu une ball game entre le ministère des Transports et la Ville de Montréal, le service d'urbanisme qui dessine le nouveau tracé des rues, etc. Donc, eux, ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire, aménager un boulevard urbain qui passe au sud de la crègue, pouvoir redonner des terrains reconstructibles au nord, puis donner une connexion là, à la trame urbaine. En ce moment-là, le building va être possible d'être reconstruit, puis désenclavé, exactement. Fait que ça, c'est un travail à long terme. Il y a aussi s'arrimer avec le service de l'eau parce qu'on touche à leur infrastructure. Il y a des plans de réutilisation du collecteur. C'est pas tout certain encore. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude. Donc, il y a beaucoup de variables puis pas de constantes. Pas beaucoup de constantes. Fait que c'est une équation un petit peu dure à mathématiser, si on veut. Donc, le temps vous nous le dira, mais on a bon espoir. Puis nous, on est prêt à prendre les règnes de notre propre organisme. D'ailleurs, on a fondé un OBNL pour ça, qui est l'espace Craig -CHIC. Le CHIC, c'est un diminutif pour Centre d'histoire et d'interprétation de la Craig. On voulait faire un centre d'histoire et d'interprétation sur les égouts, mais l'acronyme n'était pas top.
Ah oui, ça donnait quoi déjà l'acronyme?
Je te laisse l'imaginer. Mais blague à part, là, on a bon espoir. Puis nous, c'est sûr que vu qu'on est les porteurs du projet, l'entité civile qui a amené toutes les idées, parce que sinon, eux autres, ils auraient démoli la crègue, remblayé le sous-sol, puis on n'entendrait plus parler.
Ouais.
Nous, on veut sauver les équipements victoriens qui sont encore là. Je trouve qu'il y a une histoire à compter à travers ce bâtiment-là qui est intéressant. D'ailleurs, on organise une promenade de Jane à chaque année au mois de mai. C'est des marches qui sont organisées par des entités bénévoles, n'importe quoi, des promenades dans le quartier X pour voir les graffitis ou les parcs ou une visite des églises. Nous, on fait le tracé des égouts en surface, puis on parle de la Craig. Puis notre public, c'est beaucoup des gens retraités, 60, 70 ans, puis des gens qui sont quand même marcheurs, qui aiment bien marcher. Mmh. Des gens qui connaissent rien, puis une barre des égouts, là. Mais à chaque fois qu'on termine la visite, là, ils sont comme... Ils ont appris quelque chose, puis on veut y aller. Si votre musée ouvre, on va visiter. Fait qu'il y a un attrait pour ça. Je sens qu'il va y avoir un énorme engouement si jamais ce projet-là finit par être réalisé. Bon, peut-être pas 100 000 visiteurs par année, mais tu sais, je sens que ça va faire boule de neige, puis le bouche à oreille, les gens en parlent. Tu sais, c'est un sujet qui est tellement unique,
ouais.
Mais qu'une fois que tu rentres dans ce sujet-là, tu découvres qu'il y a un monde au complet à découvrir. Hein,
ouais, parce que vous en avez fait aussi des panneaux d'interprétation là, que vous avez déplacés dans différentes expositions temporaires.
Oui, on a une exposition mobile qui nous appartient à nous. Puis il y a aussi pas une exposition permanente, mais ça, c'est en conjonction avec la Ville de Montréal, le comité de travail. En fait, on a 11 panneaux qui sont installés dans le secteur des faubourgs. Ça s'appelle le Parcours des faubourgs. Tu peux trouver ça sur Google. Il y a une carte Google Maps qui indique l'emplacement des 11 panneaux d'interprétation qui parlent un peu de la station Craig, puis aussi de d'autres choses du quartier. Mais c'est très lié à la station Craig. Puis, fait que sur une des faces du panneau, au recto, tu as un panneau d'interprétation, une couple de petites photos. Puis à l'arrière de ça, ce qui est le fun, c'est qu'on a été capable de récupérer le verso qui était supposé au début d'être, je pense, c'était le Conseil des métiers d'art ou service d'urbanisme qui voulait parler du PPU des faubourgs, puis ils n'ont pas été capables de livrer leur matériel à temps. Nous autres, on leur a sauvé la face en leur donnant des photos d'égout. Okay. Ils ont imprimé nos photos d'égout grand format. Chaque panneau a un explicatif puis une photo d'égout. C'est intéressant. On se sert maintenant de ce parcours-là pour faire nos promenades de gym.
OK. Ah, écoute, c'est vraiment intéressant. Mais je pense que ça ferait le tour pas mal pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui, puis on s'en gardera pour la prochaine fois.
On s'en garde pour la prochaine fois. Mais écoute, un énorme merci, Pierre-Luc. C'était vraiment agréable.
Merci à toi, Jean-Luc. T'es toujours partant pour parler des égouts et de ma passion.
Ben écoute, un grand merci. Pour nous, ça complète. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pierre-Luc sera en mesure de pouvoir vous répondre s'il y a quoi que ce soit. Ciao.